Vous écoutez RTL.
Je vous annonce qu'il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Mathieu Kassovitz signe une nouvelle performance dans le film Sparring qui sort aujourd'hui en salle. Ses confidences dans un instant au micro de Stéphane Boutsock. L'actualité musicale marquée au rayon chanson française par le bel album Regain de Gaël Faure. On le découvrira avec Anthony Martin. La bande dessinée RTL du mois de janvier a pour titre Comme un chef et raconte l'initiation de l'auteur Benoît Peters à la grande cuisine. Un éblouissement qui donne envie de se mettre au fourneau, nous dira Monique Younes. La transition sera toute trouvée pour évoquer le démarrage de la 9e saison de Top Chef ce soir sur M6. Nous retrouverons aussi Didier Bourdon qui a le premier rôle du téléfilm La mort dans l'âme qui est diffusé sur France 2. Isabelle Morini-Bosque l'a rencontré. Et puis nous n'oublierons pas nos express du jour préparés par Olivia Tuche.
RTL Matin.
Il faut dire les choses.
Mais bien sûr.
Mais oui. Alors il y a 15 nouveaux films à l'affiche cette semaine. Nous essaierons d'y voir plus clair dans un instant. Avec vous Stéphane, on vient de vous entendre, mais je vous dis bonjour.
Bonjour aussi.
Et tout d'abord faisons le point sur notre box-office.
Les chiffres de nos amis du site cbo.fr me font plaisir parce que le dernier Spielberg est un succès. Pentagon Papers, film politique et féministe, a passionné près de 450 000 spectateurs. C'est vraiment pas mal pour ce style de film. Autre satisfaction, on en a beaucoup parlé la semaine passée avec mon camarade Steven Bellery, le joli démarrage de Hugh Jackman dans la comédie musicale The Greatest Showman, autour de 250 000 entrées. En deuxième semaine, Michel Larocque est brillantissime, cumule près de 460 000 spectateurs.
C'est très bien ça.
Ouais, c'est un joli succès, vraiment. Jumanji a passé le cap des 3 millions. Et puis, ça y est, c'est fait, La promesse de l'aube. Formidable film RTL avec Charlotte Gainsbourg et Pierre Niney est désormais au-delà du million. On verra tout à l'heure si La promesse de l'aube fait partie des films qui sont sélectionnés pour les Césars, les nominations. C'est à 10h ce matin.
Place donc maintenant aux nouveautés de ce 31 janvier. On rappelle évidemment pour commencer la très grande sortie des Tuches 3 d'Olivier Barouf.
Disponible dès ce matin dans 650 salles. Les mésaventures de Cathy et Jeff Tuche à l'Elysée valent leur pesant de patates binge. La meilleure, on rappelle, pour faire les frites. C'est la recette donnée ici même vendredi par Isabelle Nanty et Jean-Paul Roux.
On connaît un rayon.
Évidemment. Oula. Qui sont à la tête de ce film où la tribu, toujours aussi barrée et irrésistible, accède donc au pouvoir. Film drôle, bien sûr, mais aussi touchant, notamment dans l'attitude du nouveau couple présidentiel lors de son arrivée au palais. Olivier Barouf.
Ils sont riches à millions, ils sont 100 millions d'euros sur leur compte, plus ou moins. Donc ils s'en foutent du pouvoir, de l'argent. Et donc c'est la première chose que dit Cathy Tuche quand elle arrive à l'Elysée, c'est qu'elle veut payer le chauffage. Parce que autrement, on ne se sentira pas chez nous. Et ça, on s'est inspiré de Madame de Gaulle, qui payait l'électricité, le chauffage, les repas et tout. Il fallait que rien ne soit payé par l'État. Ça nous fait marrer, nous, que les Tuches pensent comme ça et fassent ça. Donc oui, ils sont au milieu du pouvoir, au milieu des ordres de la République. Ils sont à l'hôtel un peu. Hein. Ils sont là pour une période courte et ils veulent absolument pas changer leurs habitudes. Donc on paye le chauffage. On va mettre du lino parce qu'il y a trop de... les tapis, ça fait trop de poussière. Donc ça parle aux gens, évidemment, quoi. Ça parle aux Français.
Olivier Barouf, réalisateur des Tuches 3, sans doute le premier gros carton tricolore de l'année 2018. Le film a été présenté dimanche dernier en avant-première dans toute la France. Oui. 100 000 entrées, déjà, rien que sur la journée de dimanche.
Incroyable.
Côté français, sorti aussi d'un film, allez, on va dire, qui a du charme. Gaspard va au mariage d'Anthony Cordier avec Félix Moati, Marina Foïs, Laetitia Doche et Christa Terray. L'histoire de famille et d'amour dans un zoo en faillite. Alors il y a plein de choses attachantes et puis il y a plein de choses énervantes. C'est un peu le syndrome de la comédie d'auteur qui se regarde filmer et qui s'écoute écrire.
À l'affiche aussi cette semaine, Stéphane, votre coup de cœur pour Sparring de Samuel Jouy avec Mathieu Kassovitz.
Oui, dans le rôle d'un boxeur vieillissant qui n'a jamais réussi à marquer l'histoire du ring, il va se faire engager par un champion en reconquête de son titre pour lui servir de sparring, autrement dit de compagnon d'entraînement. Un punching ball sur patte qui prend donc tous les coups. Le film est âpre, rude, c'est une sorte de Rocky qui serait filmé par Ken Loach. Il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup d'émotions, notamment dans les rapports familiaux de ce boxeur incarné par un Kassovitz vraiment formidable, qui a une tendresse particulière pour ce personnage, qui refuse en fait d'accepter son sort de second couteau.
Quand on était petit et qu'on a dit à notre maman je vais être danseur étoile, ou je vais être pianiste, ou je vais faire de la boxe, ou je vais être président, on a tous eu des parents qui nous ont dit tu n'y arriveras jamais, t'es trop petit, tu cours pas assez vite, t'es pas assez intelligent, t'es pas bon en maths. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas essayer. Un mec qui veut essayer de faire du basket en mesurant 1m65, je trouve ça beaucoup plus beau qu'un mec qui fait du basket en mesurant 2m10. Et c'est notre rêve à tous, c'est vrai qu'on a nos capacités. Et puis on regarde tous Usain Bolt dans la télé, on se dit putain, si je pouvais être comme lui, putain, si je pouvais être comme Mohamed Ali, putain, si je pouvais être comme Teddy Riner, juste le temps d'une seconde pour mettre une raclée à ce type-là, ou pour pouvoir arriver premier, ou juste pour pouvoir être un super-héros un jour, quoi. Et puis on se rend compte au fur et à mesure que, il y a eux, c'est des champions. Et en dessous, il y a plein de gens qui ne sont pas des champions, mais qui font la même chose que eux, qui vivent le même rêve. Et pas de la même façon. Ils sont pas plus exceptionnels que vous, ces gens-là. La seule chose qui les rend plus exceptionnels, c'est qu'ils le font et pas vous. Donc il suffit de le faire, et puis vous rentrez dans leur club, et puis vous découvrez quelque chose d'autre.
Et alors, remarque au passage, n'y aurait-il pas un parallèle à faire entre ce boxeur qui va au contact, qui prend des coups, qui cherche la bagarre, qui tombe, qui se relève, qui y retourne, et Mathieu Kassovitz, la grande gueule, qui parfois aussi provoque la castagne?
Oui, vous pouvez même pousser plus loin. Je ne suis pas aussi riche que j'aurais pu l'être, je ne suis pas aussi connu que j'aurais pu l'être, je ne suis pas le réalisateur de Hollywood que j'aurais pu être, je n'ai pas fait le succès que j'aurais pu être. Vous pouvez dire tout ça, j'ai fait des films qui ont fait très peu d'entrées. Moi, j'ai une relation directe avec ce personnage-là, oui. Je suis pas votre winner officiel. Je suis le mec qui se casse la gueule, qui se relève, qui ouvre sa gueule, qui vous envoie chier, qui continue son chemin. Si j'avais voulu être plus connu, si j'avais voulu être plus riche, si j'avais voulu être plus de followers, pour résumer un peu notre époque, il faut faire des concessions que je ne suis pas capable de faire. C'est pas que je n'ai pas envie, c'est pas que je suis passé à côté ou que je regrette de ne pas avoir embrassé les pieds de la bonne personne au bon moment, c'est que je n'aurais jamais pu le faire. Donc je suis très heureux d'être où je suis aujourd'hui et d'avoir fait le parcours que j'ai fait. Donc il faut faire son truc, prendre ses risques, prendre ses coups, se relever et puis avancer. Et rester fier. Nos enfants, ils s'en foutent qu'on soit les numéro un ou pas. Il faut juste qu'on ait la tête haute. Donc si on garde ça, ils auront la tête haute aussi.
Mathieu Kassovitz, qui a d'ailleurs pris goût à la boxe, qui dispute régulièrement désormais des combats. Vous le verrez donc aujourd'hui à l'affiche de Sparring. À voir aussi, ou pas, Voyoucratie, réalisé par deux jeunes cinéastes qui se sont réunis sous l'acronyme FGKO. L'histoire de la réinsertion impossible d'un jeune voyou obligé de devenir indigue d'un policier véreux tout en étant traqué par le milieu. Oula. Programme chargé. Mm-hmm. Tourné sans budget, sans autorisation, sans beaucoup d'inspiration aussi parfois. Le film ne manque pas d'énergie, mais rassemble vraiment tous les poncifs du genre, avec en plus la volonté de mettre de la musique tout le temps très fort.
Ah, ça, on n'aime pas du tout.
Oh là, c'est très, très, très fatigant. À voir l'insulte de Ziad Douairi, qui va représenter le Liban pour l'Oscar du meilleur film étranger. Comment une querelle de quartier entre un garagiste arabe, chrétien et un contremaître musulman palestinien à Beyrouth va tourner à l'affaire d'État. Le film est vraiment passionnant. Ça parle de différence et de pardon. Et puis, je vous rappelle la sortie de Wonder Wheel, le dernier Woody Allen en date, peut-être le dernier tout court, d'ailleurs, on verra. Kate Winslet, impériale en serveuse fatiguée par les épreuves de la vie, confrontée au retour de sa fille qui va tomber amoureuse de son amant, interprétée par Justin Timberlake. C'est sombre, c'est désespéré, mais alors magistralement écrit et mis en scène.
Merci beaucoup Stéphane. Alors Justin Timberlake qui est de retour sur tous les fronts puisque son nouvel album sort après-demain, Anthony Martin.
Oui, 5 ans après le précédent, on découvrira vendredi Man of the Woods, son 5e album. Justin Timberlake, l'enfant de Memphis, berceau du blues et du rock situé tout près de Nashville, la capitale de la country, propose un disque ambitieux de 16 titres qui réunit justement tous ces styles traditionnels avec une touche de modernité électro-rock qui pour le coup est déroutante et malvenue. Man of the Woods est un disque dédié aux origines de Timberlake. Les textes ont pour thème la famille, il est papa depuis 3 ans et ses terres. Il a d'ailleurs ressorti la chemise de bûcheron pour un hymne fédérateur en duo avec Chris Stapleton. On ne connaît pas, mais c'est une star de la country aux États-Unis. Le morceau s'appelle Say Something. Extrait. Everyone knows all about my direction. And in my heart somewhere, I want to go there. Still, I don't go there. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't want to get caught up in the rhythm of it. But I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up. Say Something, un des titres du nouvel album Man of the Woods de Justin Timberlake qui sort vendredi. Il y aura un autre duo dans l'album avec Alicia Keys. Mm-hmm. Et pour lancer son disque, Justin Timberlake assurera le show de la mi-temps du Super Bowl dimanche soir aux États-Unis, un événement généralement suivi par plus de 100 millions de téléspectateurs. C'est pas mal pour lancer un album.
C'est bien peu. Ouais. Pour la promotion, aider, c'est pas mal du tout. Alors voilà donc pour l'actualité de Justin Timberlake. On va se retrouver dans un petit instant, Anthony, puisqu'on va découvrir ensemble votre vrai coup de cœur du moment au rayon chanson française.
9h09.
A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi. Voilà.
voilà, 9h10, comme promis, on vous retrouve Anthony. Et parmi les nouveautés, donc, au rayon chanson française, précisons-le, eh ben, vous avez retenu l'album Regain de Gaël Faure.
Oui, 13 ans après avoir utilisé le tremplin de l'émission Nouvelle Star, il avait 18 ans à l'époque, le musicien ardéchois livre ce troisième album Regain et il s'est trouvé, il rejoint cette famille de jeunes artistes dont on pourrait dire qu'elle est chaperonnée par Dominique A, une famille indépendante qui anime la scène française avec soin et loin des codes, ce qui n'empêche pas Gaël Faure d'ailleurs d'être salué par Cabrel et adoubé par les Souchon père et fils. Son album repose sur de belles harmonies, sur une base folk qu'il dilue à plusieurs reprises pour offrir des secondes aériennes et planantes, et puis l'électrise volontiers aussi. Premier extrait, la chanson s'appelle Siffler.
Depuis une heure, me suis ce chien. Il a l'air si tranquille. Des lumières denses vacillent au loin. J'ignorais alors qu'aussi près de ma ville.
Ça s'appelle Siffler, certainement. Extrait de Regain, le nouvel album de Gaël Faure. Voilà, cet extrait de Regain, le nouvel album de Gaël Faure. Les textes sont soignés. Il est question de l'humain, de l'amour au long cours, de l'attachement à la terre. Une des chansons s'appelle Colibri, comme le mouvement éco-citoyen auquel il adhère. 13 titres en tout. Je me suis vraiment laissé embarquer, moi, dans cette ambiance langoureuse, assez hypnotique. La production est délicate, et puis en même temps, c'est du costaud, y compris vocalement. Autre extrait, la chanson s'appelle La saison. Gaël Faure qui incarne très bien ce Regain, son troisième album réussi qui vient de sortir. Il est déjà en tournée partout en France.
Merci beaucoup Anthony. Alors, ce jingle nous annonce les audiences télévisées de la veille avec Médiamétrie Isabelle Morini-Bosque.
Oui, et moi je vous annonce que c'est le polar de la 3 Crime Parfait avec Antoine Duléry qui est nettement en tête. 4 600 000 téléspectateurs, c'est quasiment 700 000 de plus, de mieux que la série américaine Gone sur TF1 qui rassemble 3 900 000, absolument. Ensuite, quasi égalité entre Stéphane Plaza sur la 6 et le football sur la 2. Rennes PSG et Stéphane Plaza, 2 600 000 chacun, pas sur le même terrain. Non. Et côté TNT, eh bien c'est TFX, comme il faut dire maintenant, qui est en tête avec Fast and Furious 7, 991 000 téléspectateurs.
Et ben voilà, on va se retrouver dans quelques instants pour notre soirée télévisée. Mais tout de suite, nos express du jour préparés par Olivia Loret. Bonjour Olivia.
Bonjour à tous.
On l'a appris hier, l'humoriste Pierre Péchin est mort.
Et il est décédé à l'âge de 70 ans, connu pour ses canulars téléphoniques dans les années 70-80. Il est aussi et surtout l'auteur de la fameuse réinterprétation de La cigale et la fourmi, version Péchin.
La cigale, c'est une petite connerie qui est grosse comme ça. Et un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien à bouffer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va un petit peu plus loin à côté de chez lui et frappe à la porte et il va trouver ce qu'on appelle la fourmi, qui est encore une plus petite connerie, qui est grosse comme ça. Et frappe la porte, s'il vous plaît, s'il vous plaît, qu'est-ce que tu veux? Excuse-moi de te déranger, je suis juste une pauvre petite connerie de rien du tout, j'ai rien à bouffer, tu peux prêter un peu de pognon, s'il vous plaît? Faut le compte, tiens, pauvre fiasse, faut le compte, tire-toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je demande juste, Folcon, qu'est-ce que tu faisais l'été dernier? Qu'est-ce que tu faisais, hein, pendant que moi j'ai travaillé? Hein, qu'est-ce que tu faisais? Tu chantais comme ça? Rien du tout, et puis tu as gagné le pognon comme ça de l'année dernière, tu as acheté un 5000 Peugeot. Hein, le 5000 Peugeot avec les décalcomanies partout. Il y avait un donat.
Indémodable. Il était ma référence absolue, il m'a tout appris et je connais tout de lui, c'était mon idole. C'est ce qu'a dit l'acteur et humoriste Raphaël Mesrahi.
Il y a des canulars téléphoniques absolument extraordinaires, notamment un que je ne retrouve plus et que je cherche toujours, où il appelle la maison Saint-Laurent en se faisant passer pour un général qui veut commander des vêtements un peu plus sexy et un peu plus sucrés, si vous voyez ce que je veux dire. C'est extraordinaire, il dit bah, c'est moi Yves Saint-Laurent, enfin, c'était vraiment formidable. Alors, l'édition 2018 du Festival de Musique Classique, La Folle Journée de Nantes, démarre donc aujourd'hui.
Et c'est jusqu'à dimanche dans 10 villes des Pays de la Loire, à Nantes, à Chalon, La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire ou encore à Cholet. Un thème cette année, l'exil, qu'il soit forcé ou choisi. Et pour illustrer la résistance face aux tyrans, on entendra des œuvres de compositeurs qui ont fui des régimes totalitaires comme Prokofiev, Rachmaninov ou Stravinsky. La cantatrice Barbara Hendricks ouvre le festival ce soir à la Cité des Congrès de Nantes avec un récital de blues.
Oh, there's blues, blues everywhere I go. Everywhere I go, gonna find my good man, and I won't be blue no more. Well, there is blues in my house.
Dites donc, c'est pas mal, Barbara.
Ça fait du bien aux oreilles.
Oui, oui. Chantant du blues. Alors, que donne le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express?
Entrée fracassante à la première place du quatrième et dernier tome de la saga napolitaine. L'amie prodigieuse, ça s'appelle L'Enfant perdu. La fin de la série d'Elena Ferrante devance Couleur de l'incendie de Pierre Lemaître, suivi à la troisième place de Et moi, je vis toujours, le roman posthume de Jean d'Ormesson. Du côté des essais et documents, là aussi, une nouveauté se classe d'emblée numéro 1. L'amour après de Marceline Loredan-Evans, rescapée du camp d'Auschwitz.
Xavier Dolan, overbooké dans les mois qui viennent.
Alors d'abord, il faut rappeler qu'on découvrira peut-être à Cannes en mai prochain le premier film en anglais du prodige québécois Mort et vie de John F. Donovan avec Jessica Chastain, Kathy Bates et Nathalie Portman, entre autres. Oh. Ensuite, le réalisateur vient d'annoncer le tournage l'été prochain de son 8e film chez lui au Québec et en français, dans lequel il tiendra le premier rôle Matt et Max, l'histoire d'un coup de foudre amoureux de deux amis qui n'avaient jusqu'ici jamais été attirés par les hommes. Ensuite, Xavier Dolan sera à l'affiche en tant que comédien du film Boys Erased, aux côtés de Russell Crowe ou encore de Nicole Kidman. L'histoire vraie d'un fils de pasteur obligé de suivre une thérapie pour soigner son homosexualité, sortie en novembre prochain.
Je me disais quand même qu'il est né overbooké, hein, Xavier.
Oui, c'est incroyable.
Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, chère Monique Younes, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous présentez ce matin la bande dessinée RTL de janvier qui a pour titre Comme un chef. Elle est signée Benoît Peters et Aurélia Orita aux éditions Casterman.
Oui.
Et au vu de la couverture, il ne nous échappe pas qu'il s'agit de gastronomie.
Oui, et c'est un peu pour vous que les jurés du prix RTL ont choisi Comme un chef.
Merci.
Ils savent, cher Yves, que vous êtes un fin gourmet, que vous allez adorer cette
Certes
histoire,
oui.
qui est une sorte d'autobiographie culinaire de Benoît Peters, écrivain et éditeur, qui fut, dans les années 70, emporté par la vague du nouveau roman, de la nouvelle critique et, évidemment, de la nouvelle cuisine qui s'imposait en France.
Et dont les cuisiniers vedettes s'appelaient, par exemple, Alain Sandrins, Michel Guérard ou encore Alain Chapelle.
Voilà, qui montaient des barricades culinaires contre les graisses, les cuissons trop longues, les sucres. Alors, venant d'une famille qui ne prêtait pas grande attention à la nourriture et étudiant sans le sou, les grands restaurants restaient pour le jeune Benoît Peters un amour platonique. Mais un beau jour, c'était l'été 1977, pour la première fois de sa vie, Benoît Peters goûte un plat noté 20 sur 20 au Goemio chez les frères Troisgros.
L'escalope de saumon à l'oseille, alors une escalope à peine snacké, qui n'est pas recouvert de sauce comme on le fait souvent, mais qui est posé sur cette sauce délicatement acide, un peu crémeuse en même temps. Et donc là, je me dis, mais alors, ça peut être ça la cuisine. C'est pas simplement très bon, c'est autre chose. Je dois dire, j'ai eu la chance avec Aurélia Orita, ma complice, pour ce livre, qu'elle transcende complètement cette révélation qui a été celle de l'escalope de saumon à l'oseille, puisque je compare ma situation à l'extase de Claudel à Notre-Dame quand il retrouve la foi.
Vous voyez comment il les raconte bien. On a l'impression de voir les images, finalement, quand il les raconte. Et lorsque j'ai lu cette phrase sur Claudel et sa révélation à Notre-Dame, là, tout de suite, j'ai vu la cathédrale. Souvent, chez moi, le dessin appelle des idées. Donc, une fois que j'avais fait la cathédrale, j'avais une cinquantaine de plats à dessiner. Je cherchais un moyen de les rendre sans lasser l'œil du lecteur. Et c'est là que j'ai pensé aux vitraux de la cathédrale. J'ai trouvé que c'était le support idéal pour présenter les 50 fromages, tous les desserts. Donc, c'est comme ça que cette scène est née.
Aurélia Horita dessine les aventures culinaires de Benoît Peters comme un polar de Jean-Patrick Manchette. La fantaisie et le suspense avec lesquels elle réussit à mettre en scène les plats, comme des situations théâtrales avec des rebondissements dans la poêle, les fricassés amoureux, c'est gouléant. Ça a de la cuisse, surtout quand il s'agit d'illustrer le dîner que Benoît Peters a concocté à son professeur et maître Roland Barthes.
Je prépare ce repas avec le plus grand soin, mais un peu nouvelle cuisine, donc très allégée. Et je me rends compte quelques jours après, par un ami, que Roland Barthes, homme du Sud-Ouest, homme du Pays Basque, est peut-être habitué à des nourritures plus abondantes, un peu plus riches. Et il dira à un de mes amis, celui qui m'a initié à la cuisine, Jean-Christophe, c'était très fin, très délicat, mais peut-être... un rien ascétique.
Voilà, donc une phrase qui reste gravée dans la mémoire de Benoît Peters. Mais les pages les plus émouvantes de ce livre restent comment, avec ses petits moyens, Benoît Peters pousse la porte des restaurants les plus huppés, notamment celui de Claude Perrault, le Vivarois.
On est pendant le tournage d'un film fauché avec ma compagne. On passe tout près de l'avenue Victor Hugo. Je dis, oh, tu sais, il y a un chef extraordinaire. Elle me dit, mais non, regarde comme on est habillé, c'est pas possible, puis on n'a pas d'argent. Je regarde, je dis, peut-être qu'on pourrait prendre un plat. Il reste une table, on nous accueille malgré nos blue jeans et nos grosses chaussures. Et Claude Perrault, voyant que nous avons fait une commande peut-être un peu trop modeste, un peu trop simple, comprenant la situation qui est la nôtre avec notre grande bouteille d'eau, nous fait apporter un premier plat, puis un deuxième, puis un troisième parmi les plats les plus extraordinaires de la carte qu'il nous offre. Et à la fin, vient partager le dessert avec nous, nous demander notre avis. Nous qui sommes éblouis et en nous disant « Mais regardez tous ces gens aux autres tables, ils s'en fichent de ma cuisine, ils viennent ici parce que c'est l'adresse chic, ils se passent leur dossier au-dessus des plats. » Et vous, j'ai compris tout de suite que vous étiez venus parce que vous étiez vraiment des amateurs. Et c'est tellement exceptionnel dans ce monde de voir cette pure générosité.
Excellente situation, effectivement, il y en a tellement d'autres dans ce livre, comme un chef, qui est l'histoire d'une passion qui se perpétue et que Benoît Peters partage aujourd'hui avec ses lecteurs. Je vous assure, Yves, que vous pouvez dévorer ce livre, il est cuit à la vapeur, édité par Casterman.
Ah non, pas douter, et c'est donc notre rendez-vous du mois de bande dessinée RTL en janvier. Merci Monique Younes. Dans un instant, votre soirée télévisée avec Isabelle Morelli-Bosque.
9h22.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Isabelle Morelli-Bosque, nous parlons de notre soirée télévisée et on commence par La mort dans l'âme. C'est sur la 2, c'est un polar sombre, réalisé par Xavier Duringer.
Oui, on doit à cet homme de théâtre La Conquête au cinéma et Ne m'abandonne pas avec Marc Lavoine à la télévision, entre autres. Hein. Mm-hmm. Autre atout de ce polar réussi, le casting en tête Hugo Becker, oui chef, Baron Noir, etc. Et l'ex-inconnu Didier Bourdon qui, puis-je faire remarquer, donne franchement effectivement un peu le bourdon dans un rôle de meurtrier dépressif.
Dans le téléfilm, oui, là c'est sûr que bon, ah ben moi non plus là, ça je voudrais pas vivre ce qu'il vit ce pauvre personnage. C'est une tragédie un peu grecque. Hein. C'est lui qui décide un petit peu de régler ses propres histoires. On va pas dévoiler bien évidemment, mais
sans dévoiler, je vais vous laisser faire le pitch tout seul.
Ah ben le pitch, oui c'est gentil, merci. Au début du film, il y a un type qui appelle, qui dit voilà je viens de tuer mon fils. Et après l'enquête menée par Monsieur Hugo Becker, bien évidemment il se doute que c'est peut-être pas aussi clair que ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et en parallèle, il y a des histoires un peu étranges de meurtres en série, voilà.
Comme vous l'avez compris, c'est une comédie, voilà.
On est dans un truc un peu glauque, hein, faut quand même le dire.
Il y en a un qui s'est rendu compte qu'on partait dans le drame, là, qu'il était temps de reprendre les choses en main.
Exactement. Oui. Le texte n'était pas très difficile à retenir pour Didier Bourdon, attendu que dans la première partie, il ne dit strictement rien, notamment dans le premier tête-à-tête avec son avocat. Écoutez.
Je veux pas savoir ce qui s'est passé, c'est pas mon problème. Mais rien dire, c'est pas une bonne idée. On est dans une petite ville. Tout le monde connaît un peu tout le monde, alors forcément, tout le monde veut savoir. Et plus vous vous taisez, plus ils veulent savoir. Même votre avocat de famille.
Voilà. Et il parle. Et l'autre se tait. Alors, pour Hugo Becker, l'intrigue est vraiment originale.
Du côté du personnage de Didier, effectivement, l'infanticide, c'est pas quelque chose qu'on avait beaucoup vu en fiction. Et du côté du personnage de Tristan, c'est le secret professionnel et le fait qu'un avocat doit absolument adopter la ligne de défense de son client. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'a pas été vu tant que ça. On a vu des choses sur le secret professionnel, mais sur le fait qu'on doit absolument adopter la ligne de défense du client, que ce soit son avantage ou son désavantage, et qu'on ne puisse pas révéler certains éléments de l'affaire, même si on les a découverts, c'est quand même assez intéressant, je trouve.
Après, le téléfilm, c'est ça qui est beau. C'est que ça se finit de manière positif, je sais pas si c'est le mot, mais un peu plus solaire quand même. Il y a un rapprochement d'homme, il y a une compréhension de vie.
C'est pas un film qui est froid, c'est un film qui est tendu, mais c'est pas un film qui est froid.
Je confirme, et c'était bien de le préciser. Alors plusieurs téléspectateurs vont dire avec raison, encore un polar, il y en a vraiment marre. Sauf que dans les 100 meilleures audiences 2017, qu'est-ce qui apparaît nettement? Eh bien, les polars, très plébiscités, alors?
Mais c'est pas un polar en plus là, c'est un thriller. On suit vraiment deux personnages, l'un est père de famille et l'autre est avocat. Donc on n'est pas dans un policier classique du tout. Donc
après, il n'en demeure pas moins. Moi j'avoue que je pourrais dire la même chose en disant j'en ai marre des polars, mais si je tombe sur un truc au départ, il y a un meurtre qui est bien fait, je me dis tiens, j'aimerais bien savoir qui l'a fait. C'est, ça marche à tous les coups. Ah oui. Et là, il y a un peu de ça aussi quand même. Hein.
Puis Duranger, il est quand même assez doué dans ce style là, donc c'est vrai que ce serait dommage de ne pas l'utiliser à bon escient.
Et alors vous, quand on vous a proposé le rôle, vous vous êtes dit bon sang, je vais jouer avec Didier Bourdon?
Je me suis dit génial, mais je connaissais Didier comme beaucoup de gens, mais j'ai vu après, comment il s'appelle, 15 jours ailleurs, et j'avais été assez bluffé, et je me suis dit que ça allait être quelque chose de pas attendu.
Avec Xavier Duranger, je savais que j'allais pas avoir un baltringue devant moi, quand il met du Hugo Becker, moi je le connaissais parce que je le suis. Et puis il y a aussi des points communs de Dôme de théâtre, hein. Il est très concentré, on savait qu'on avait pas beaucoup de temps. Il y a une journaliste qui nous a dit, est-ce que vous rigoliez? Oui, quand on mangeait, on avait besoin, mais sur le moment, non.
On ne veut pas des baltringues.
Ce soir, c'est sûr. 20h55, la 2, c'est très réussi.
On doit signaler aussi la reprise de Top Chef, évidemment, sur M6. Vous aimez, moi aussi, d'ailleurs. Hein.
Oui, c'est ça. J'aime l'émission, hein, pas la cuisine. Moi, ça m'angoisse de les voir angoisser parce qu'ils ont raté la cuisson des petits pois. J'aime le jury, Hélène Darroze, Michel Sarrange, Jean-François Pech et surtout Philippe Etchebest, qu'on voit dans la bande-annonce en chef raffiné, qui se transforme en Brutus quand on annonce le démarrage de la 9e saison de Top Chef et les 15 candidats. Les méchantes langues vont encore dire, Philippe Etchebest, que ce petit film prouve déjà que c'est scénarisé.
C'est une manière de teaser un petit peu. On le raconte un petit peu comme le combat des chefs où on va se marcher dessus, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Le concours, il est d'abord celui des candidats, c'est pas le nôtre. Nous, on est là pour les accompagner. Il y a une petite compétition entre nous, on en joue de ça, bien évidemment, et on a envie que ce soit le candidat ou la candidate de notre brigade qui gagne. Mais voilà, ça reste toujours très bon enfant. Mais je trouve que c'était bien fait, ça a été vachement bien.
Vous, qu'on accuse déjà souvent maintenant d'en rajouter dans le côté « je suis un ours »,
je suis un ours gentil, hein.
Oui, c'est un ours gentil, et c'est le paradis. Donc, et là, on reviendra évidemment dessus, car ça ne fait que commencer.
Merci beaucoup Isabelle. Dans un instant, on se retrouve pour se dire au revoir, et on accueille Julien Courbet. Belle journée à l'écoute d'RTL. Ça, c'est un jingle qui a de l'autorité, donc il est grand temps de retrouver Julien Courbet.
Bonjour Monsieur Calvi, comment allez-vous ?
Mais fort bien.
Eh bien écoutez, nous sommes là, deux avocates, il y a tout le monde, il y a beaucoup de cas, un cas vraiment très important que nous allons traiter ce matin, et je sais qu'après, quand vous repartez dans votre voiture, vous nous écoutez. Je le sais. Je me trompe ou pas ?
Pas du tout, non. C'est sur mon scooter, mais je vous écoute quand même.
Acquiescez, fumier, il ne dit rien, lui. Vous nous écoutez,
vous savez pourquoi ? Mais non, mais je vous regardais.
On sortait dans le blanc, je disais, bon, non, je ne t'écoute pas, mon vieux. Non, j'ai autre chose à faire.
J'ai vraiment autre chose à
faire. J'ai autre chose à faire. C'est exactement ça. Tout le monde l'a compris. Bon, mais c'est
pas du tout. Je suis fidèle, moi.
Allez, mais tant mieux. À votre radio, à votre femme, à tout le monde. À votre chien également.
Yves, c'est un chat.
Comment s'appelle-t-il ?
Il y en a deux. Il y a Marivaux et Mimi Gris.
Ah bon ?
Oui.
Émigré. Oui. Tant mieux.
Mimigri. On va pas commencer à commenter les noms de chats parce que c'est sans fin.
On attaque. Salut, bonne journée.
Bonne émission.
Vous écoutez RTL.